Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'un des textes les plus célèbres de la philosophie, Le Banquet, écrit par Platon environ 380 ans avant Jésus-Christ et qui, posant la question de la définition de l'amour, reste de fait un livre éminemment universel et intemporel. Dialogue entre plusieurs personnages, dont Socrate et Aristophane parmi les plus connus, Le Banquet peut aussi paraître d'une lecture complexe, voire en effrayer quelques-uns. Mais aujourd'hui, grâce à une adaptation en bande dessinée, tout s'éclaire. Ainsi donc, j'accueille les deux auteurs de cette transposition, intitulée « Le banquet d'après l'œuvre de Platon » aux éditions Les Échappées. Coco, dessinatrice de presse, illustratrice et auteure de BD, et Raphaël Antoven, écrivain et professeur de philosophie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être faut-il que l'une ou l'autre nous racontiez comment est née l'idée de ce projet inédit et en duo.
Coco, peut-être.
Eh bien, à la maison d'édition Les Échappées, on avait travaillé sur des classiques de littérature qu'on avait simplement illustrés. En discutant comme ça, on a eu envie de travailler sur un projet un peu plus ambitieux autour de la littérature, de la philosophie. Et en fait, on a pensé à Raphaël parce que c'est un des profs de philosophie les plus éminents actuellement.
Zémi avec un Z.
S'il vous plaît. On avait une autre idée de projet, peut-être plus sur des grands temps forts de la philosophie.
Oui, au départ, ce qu'il m'avait proposé, c'était
voilà.
Ça, oui, effectivement.
Et puis, j'avais vu une séquence où Raphaël racontait, c'était presque déjà un scénario de BD, il racontait le dialogue, l'échange entre Socrate et Alcibiade sur « je te file un peu de ma beauté et tu me files de ton intelligence ». Il faisait ça de manière très marrante et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un scénario. Et ensuite, Raphaël a eu l'idée qu'on fasse tout le banquet, ce qui était
très ambitieux aussi.
Finalement, ça coulait de source parce que c'est drôle, ça se passe autour d'une table. Voilà, tout. Il y a des personnalités qui émergent. Et pour un dessinateur, une dessinatrice que je suis, c'est un régal.
Donc, si je comprends bien, une idée au début dans une maison d'édition avec vous autour d'un grand texte philosophique, après l'invitation à Raphaël Antoven. Pourquoi Platon et pourquoi Le Banquet en particulier? Parce que même si c'est un des textes les plus célèbres, il y a aussi La République, par exemple.
Bien sûr. La scène, en fait, l'idée du banquet est venue de la scène liminaire, enfin de la scène dans Le Banquet entre Socrate et Alcibiade. Le moment où Alcibiade se fait éconduire par Socrate. Socrate refuse de coucher avec Alcibiade, ce qui défie le bon sens, la logique, étant donné la laideur de l'un et la beauté de l'autre. Et donc c'était ça l'idée de départ. Et quand on s'est mis à raconter, imaginer la scène entre Socrate et Alcibiade, on s'est aperçu soudain qu'il y avait une infinité de choses à faire, à dire, et c'est comme ça que le livre est né. Il est né de l'intérieur. Donc il n'y avait pas de, si vous voulez, de nécessité au départ de se dire, voilà, Platon, magnifique, éminent, sublime, premier philosophe, etc. Non, non, pas du tout. C'est parti juste d'une expérience de sexe raté entre le père de la philosophie, tel qu'on la connaît, Socrate, et le plus bel homme de Grèce, c'est-à-dire Alcibiade.
Donc c'est le thème sous-jacent finalement au banquet dont vous allez nous parler, qui est en effet ce rassemblement très festif.
Oui.
Et c'est un rassemblement autour du corps et de l'âme et de la pensée, tout ce qu'on aime dans la vie et dans ce texte. J'aimerais bien maintenant qu'on a défini un peu les circonstances de la naissance du projet, que vous nous présentiez exactement ce banquet à quelqu'un qui, par exemple, ne l'a jamais lu, Raphaël Antoven.
J'aimerais, non que je me défausse, hein, c'est une chose que j'ai déjà faite, mais j'aimerais peut-être que Coco le fasse, non? Je ne sais pas.
Mais oui, en fait, il s'agit d'une soirée que Agathon a organisée. La veille, il a gagné un concours de tragédie. Il a fait une grosse fête, une grosse beuverie.
Ils ont tous la gueule de bois.
Ils ont tous la gueule de bois. Et Agathon se dit, tiens, on va remettre le truc, mais cette fois, on va faire une soirée plus soft. Je vais inviter mes amis. Et en fait, c'est Eric Zimak, je crois, qui lance l'idée. Et si on parlait d'amour? Et si chacun d'entre nous, tour à tour, de gauche à droite, faisait son éloge de l'amour?
Je voudrais juste dire que enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais que Coco n'avait pas lu Le Banquet avant.
Non,
que,
non, je n'avais pas lu Le Banquet avant. Je l'ai découvert aussi. Je n'ai pas eu le souvenir de l'avoir étudié non plus.
Ce que je veux dire, c'est que l'expérience de lectrice qui fait que, en quelques mois, on peut être très familier de ce texte et en parler très volontiers, très paisiblement, et en retirer tous les fruits, est une expérience qui est vraiment universellement partageable.
Alors que vous, Raphaël Antoven, vous l'aviez lu, j'imagine.
J'ai lu en terminale, comme tout le monde, hein. Je l'ai lu en terminale. Oui. Je m'étais un peu ennuyé, d'ailleurs, même en terminale, en le lisant. Et puis, je n'ai jamais cessé de le lire d'une certaine manière. Et quand vous enseignez la philosophie, vous devez en passer par là parce que vous avez affaire d'abord à un texte canonique qu'on n'a pas le choix d'enseigner. Ou pas, mais aussi un texte qui décrit les façons les plus classiques de s'aimer. Si vous avez eu le sentiment que la personne que vous aimez est votre moitié d'orange, votre soleil, enfin votre moitié de soleil, la personne sans qui vous n'êtes plus vous-même, le discours d'Aristophane a été écrit pour vous. Si vous avez l'impression que quand on aime, on désire toujours ce qui nous manque chez l'autre, alors le discours de Socrate est pour vous. Autrement dit, c'est un texte qui raconte, qui décrit, qui met en mythe les façons les plus courantes, ordinaires et éternelles de s'aimer. Donc, quand vous enseignez la philosophie, vous ne pouvez pas échapper à ça.
Et sachant qu'il y a une diversité donc des visions de l'amour selon chacun des interlocuteurs, à quel discours êtes-vous l'un ou l'autre plus sensible ? Coco, par exemple ?
Moi, c'est mon côté peut-être un peu fleur bleue ou je sais pas, mais le discours d'Aristophane, je le trouve particulièrement réussi parce que déjà c'est un mythe, c'est très imagé.
Voulez-vous bien nous le raconter, s'il vous plaît?
Oui, en fait, Aristophane revient aux origines de l'être humain en disant qu'au début il y avait trois genres, le mâle, savoir mâle, la femelle.
En fait, on était des hommes boules, c'est ça,
voilà.
C'est ça.
On était des hommes boules. Voilà.
Quatre bras, quatre jambes, deux
quatre
têtes.
Quatre bras,
etc.
Quatre jambes, deux têtes. Voilà, ces hommes boules avaient beaucoup de, enfin, étaient audacieux. Ils sont allés jusqu'à défier les dieux, ce qui n'a pas plu à Zeus, qui a décidé de les couper en deux. De là, en fait, est né le Bon, vas-y, raconte. Mais, c'est toi, le prof de philo.
Zeus est embêté quand les hommes boules veulent prendre le pouvoir parce que il voudrait bien les exterminer, mais s'il les extermine, il n'y aura plus personne pour les adorer.
Voilà.
Donc ce serait une faiblesse offrandes. Supplémentaire. Donc il veut les couper en deux. Il veut les diminuer pour les rendre plus humbles. Donc il les coupe en deux et il demande à Apollon de nouer la peau autour de la cicatrice.
Ce qui fait le nombril.
Ce qui fait le nombril. Techniquement, le nombril est né d'un coup de foudre qui nous a séparés de nous-mêmes.
Et vous, Raphaël Antoven, quelle est, parmi toutes ces visions de l'amour, celle qui a votre
Moi,
préférence?
Moi, j'ai une petite faiblesse pour le désarroi d'Alcibiade, le désespoir d'Alcibiade, qui lui est ivre-mort, contrairement aux convives du banquet. Enfin, ivre-vivant. Il picole un peu et il voit Socrate, qu'il ne s'attendait pas à retrouver ici, et il dit « Cet homme-là m'a brisé le cœur, je vais vous raconter l'histoire. » Et il raconte l'histoire. Et l'histoire, c'est quand même Alcibiade qui fait le calcul, Coco en a parlé un peu tout à l'heure, qui fait le calcul suivant. « Je suis beau et un peu con, il est laid. » Socrate faisait commerce de sa laideur, d'une certaine manière, en tout cas, il s'en vantait. « Et il est extrêmement intelligent. Je vais lui donner de ma beauté, il va me donner de son intelligence. » Et entre nous deux, ça va bien marcher. Et là, Alcibiade se lance donc fort de cette idée, avec cette idée en tête, se lance dans une entreprise de conquête de Socrate, qu'il invite à dîner, puis Socrate repart, puis il l'invite à lutter nu, puis il se passe rien, puis il le réinvite à dîner, Socrate s'endort, etc., etc. Au bout d'un moment, Alcibiade n'en peut plus, on l'a jamais traité comme ça, jamais répondu comme ça à ses avances, dit à Socrate, écoute, voilà le deal, je te donne un peu de ma beauté, tu me donnes un peu d'un... Et Socrate lui dit, si c'est ça que tu me proposes, et si t'as raison, tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre, parce que mon intelligence, celle que tu m'attribues, elle est éternelle. Ta beauté, dans quelques
temps,
évidemment, elle est éphémère. On va essayer ensemble de savoir d'où vient la beauté qui est la tienne, plutôt que de se fasciner pour ta beauté et grogner comme des cochons. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça l'enjeu, si vous voulez. On a mieux à faire qu'à jouer aux cochons. On va enfanter dans la beauté. On a mieux à faire qu'à s'accoupler, qu'à forniquer. On va enfanter dans la beauté. On va créer des beaux discours. On va chercher la vérité. On va travailler à plus de connaissances. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est que c'est sous la forme d'un râteau extraordinaire qu'Alcibiade prend sa première leçon de philosophie. Ce qui est désolant, c'est que deux personnes qui s'adorent choisissent, au nom même de l'amour, de ne pas coucher ensemble. Donc on hésite sur le sens à donner à ce moment-là.
Et on laisse chacun prendre la
chacun,
décision.
L'amour platonique. La décision de l'amour platonique, voilà. C'est ça.
Alors, on a parlé beaucoup d'hommes et une seule femme, finalement, dans
oui,
ce banquet.
Pas n'importe laquelle.
Diotime.
Oui.
Coco, qui est Diotime ?
Diotime, c'est elle qui, en fait, c'est elle qui porte le discours de Socrate. Sur l'amour, la beauté, sur l'amour de la science. Enfin, voilà, c'est un discours très riche qui vient d'ailleurs après celui d'Agathon, qui en fait se fourvoie en quelque sorte en disant que l'amour c'est beau, l'amour c'est super, l'amour c'est que beau. Et en fait, il s'enflamme un peu. Et là, Diotime est là pour dire, bah, en fait, non.
Est-ce qu'il y avait un modèle féminin qui vous a inspiré pour dessiner Diotime, Coco?
On aimait bien se le raconter. Enfin, entre nous, au départ, oui, c'est vrai, vu que c'est la seule femme, Diotime, on en a discuté. Et puis, je sais pas pourquoi c'est... On parlait d'une femme de caractère et c'est Raphaël qui a dit, mais attends, physiquement, ça pourrait être quelqu'un comme Jeanne Masse. Le nom de Jeanne Masse est
donc
tombé.
Donc, pour vous, Jeanne Masse, femme de caractère,
non, mais
c'est
dire,
la même chose, Raphaël.
En fait, l'idée Jeanne Masse était la première idée. Ça a un tout petit peu évolué ensuite, pour
un
être
peu.
Tout à fait
oui,
honnête.
Que,
pour devenir... Elle est plus proche de Désirless, je
trouve, voilà, que de Jeanne Masse. À moi, effectivement, elle ne ressemble pas vraiment à Jeanne Masse.
C'est voyage-voyage.
Non, voilà, oui. Non, mais en fait, c'est vrai que physiquement, il fallait un peu la démarquer. Aussi, la démarquer de Aphrodite, qui est au début, qui est un peu un stéréotype de la belle femme, voilà, très érotique.
Ça fonctionne sur le
long.
Lecteur, le stéréotype
voilà.
De la belle femme.
Mais non, c'est vrai que Diotime, il fallait la rendre un peu singulière, quoi. Donc, c'est vrai que je lui ai fait une coupe...
Oui, très, très
elle,
moderne.
Elle, non, elle a... Oui,
très années 80.
C'était voilà, pour, 80. Pour asseoir une forme de personnalité aussi. Elle est un peu différente.
Et d'ailleurs, je vois que vous vous êtes bien amusés aussi l'un et l'autre, parce qu'il y a des petites références anachroniques avec, par exemple, la reprise des paroles d'une chanson d'Élie Médéroses. Toi, toi, mon toi.
Ah oui, parce que c'était la meilleure façon. C'était la meilleure façon qu'on avait. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le texte est vraiment de Platon. Hein.
Oui, oui.
Le texte est de Platon. Les ajouts que vous donnez ici avaient des vertus pédagogiques, sont jamais innocents. Quand je dis toi, toi, mon toi, c'est parce que la phrase d'après, c'est toi, toi, mon tout, mon roi.
Voilà.
Or, c'est le moment où on décrit les hommes boules qui désirent s'unir et ne faire qu'un. Donc c'était la chanson des hommes boules. Toi, toi, mon toi, 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 mon tout. Donc c'est pour ça qu'on l'a cité à ce moment-là.
Et puis une référence à un titre de Serge Gainsbourg que l'on aperçoit furtivement à un piano avec cette réplique que je vous laisse te dire.
Le lendemain, faites revenir ce cœur bien tendre. C'est une chanson où Gainsbourg raconte les tentatives de séduction d'une dame qui fait venir un cœur bien tendre et qui a le mauvais goût de s'endormir. Et alors il est là, et s'il s'endort, foutez-le dehors, et s'il s'endort, foutez-le dehors, et après les transports, s'il s'endort, jetez-le dehors. Cette chanson-là, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je peux me tromper, a été inspirée à Gainsbourg par l'histoire de Socrate et Alcibiade, qui trois fois de suite se voit éconduit parce que Socrate s'endort.
Eh bien, si vous l'acceptez...
Donc c'est pas si anachronique que ça, en fait.
Nous allons l'écouter.
Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin avec dédain. Égrenez vos accords et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir, faites attendre encore. Et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre, jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de la dessinatrice Coco et du philosophe Raphaël Antoven qui publient ensemble une bande dessinée intitulée Le Banquet d'après l'œuvre de Platon aux éditions Les Échappées. On l'a entendu depuis le début de cet entretien, c'est une adaptation ludique et en même temps très fidèle de ce classique de la philosophie écrit il y a environ 2500 ans et qui nous propose différentes visions de l'amour. Parlons maintenant de ce que vous avez apporté personnellement à ce texte. Coco, par exemple, je me demandais quel avait été votre plus grand défi pour traduire en images des concepts parfois pointus ou abstraits.
Oui, c'est vrai que quand on dessine, en général, on le fait parce qu'on a une matière concrète à dessiner. Par exemple, dans mon travail de dessinatrice de presse, voilà, j'ai des hommes politiques sous la main. Je les fais, je les manie, je les critique. Enfin,
vous avez déjà aussi un support visuel.
Oui, voilà, on a un support visuel. Là, il y a des choses à créer. C'est pas que aujourd'hui, on peut trouver facilement de la documentation quand même sur tout. Donc, c'est un travail de recherche en amont. C'est vrai que c'est ma première bande dessinée, moi aussi, comme à Raphaël. Donc, c'était aussi un petit challenge personnel. Ça fait un moment que je pensais à peut-être me lancer un jour dans un truc. Je suis contente de l'avoir fait sur un support comme ça et d'avoir travaillé en duo aussi. C'est rassurant. Ça peut...
Oui, parce que vous avez eu des échanges constants, j'imagine.
Oui, on s'est quand même pas...
On n'a pas arrêté de se parler.
On s'est pas mal vu, on a pas mal...
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de la bande dessinée, on voit aussi le travail en train de se faire. Et par exemple, à un moment, vous êtes devant un obstacle.
Voilà.
Et vous mettez en scène, page 62, pour être tout à fait précise, vous faites une parenthèse où vous vous mettez en scène donc dans une étape de ce travail où vous vous dites « mais comment je vais dessiner ça ?» Et donc vous en parlez avec votre co-auteur. Est-ce que c'était aussi une façon de dire au lecteur « c'est pas si facile que ça » ?
C'est une façon d'amener... Le lecteur, je pense que c'est un peu moi aussi. Donc en fait, le lecteur, il découvre les dessins, il découvre aussi un texte qu'il appréhende comme il l'appréhende. Il est possible qu'à un moment, dans cette représentation de la beauté, il soit un peu bloqué lui aussi. Comme moi je l'ai été à ce moment-là, en me disant, mais mince, voilà la beauté, comment je fais pour rendre ça palpable par le dessin. Donc, ces questions-là, je me les suis posées jusqu'au moment où, en fait, j'appelle simplement Raphaël. Allô Raphaël. Je suis en train de travailler sur le discours de Diotime. J'ai l'impression de tourner un peu en rond avec la beauté. Comment je peux faire pour... bien faire entendre ça au lecteur, pour bien montrer ce que Diotime veut dire. C'est là que, oui, on a choisi de montrer cet échange parce que c'était une sorte de petite parenthèse assez marrante. Et puis, l'explication de la beauté, elle est naturellement dans les paroles telles que Raphaël le dit. C'est-à-dire que ça passe par l'éblouissement de celui qui la regarde. Et là, on comprend vraiment comment ça peut être perçu, en fait. Et puis, j'aimais bien aussi le côté un peu anachronique de pouvoir manipuler un peu le temps en disant, voilà, on est en Grèce antique et puis d'un coup, on s'extrait un peu du projet pour pouvoir montrer les dessous de cartes. Les lecteurs généralement aiment bien ça et ensuite on revient. C'était amusant.
C'est vraiment l'idée de Coco. Moi, j'étais d'accord parce que c'est une super idée. Mais l'échange qu'on avait eu ce jour-là était exemplaire des problèmes que pose le banquet. Tout le propos de Platon, c'est de dire que un corps, c'est bien, mais ce qui compte, c'est la beauté. Le désir, le désir d'une personne, c'est bien, mais ce qui compte, c'est l'essence même du désir. Donc, il n'arrête pas de nous emmener vers du non-représentable, de l'abstrait. Et quand vous devez dessiner ça, vous êtes dans un mouvement contradictoire, puisque vous devez l'incarner. Donc, la difficulté devant laquelle Coco, devant sa planche, se trouvait, est une difficulté typiquement platonicienne. Comment on fait pour représenter le truc qui est au-delà de toute représentation?
Et ce qu'on n'a pas dit encore, Raphaël Antoven, c'est que vous êtes représenté, vous aussi, dans la bande dessinée, comme un personnage extérieur, à la fois témoin et guide, peut-être,
tout
de
à
celui
fait fantomatique,
qui va prendre la main du lecteur, de la lectrice.
Il n'y a pas d'interaction entre moi et les personnages du
banquet.
Mais
vous êtes sur le côté.
Oui, je suis là. Je suis en mode Bruce Willis dans le sixième sens, si vous voulez, voyez.
J'aime bien dire ça.
Mais c'est ça.
Donc vous êtes mort,
Je suis le fantôme qui s'ignore comme fantôme, mais qui reste fantomatique. Je suis juste l'intercesseur pédagogique, c'est-à-dire que j'interviens de temps en temps pour soit éclairer, soit proposer quelque chose ou rappeler un autre texte de Platon dont la lecture à cet instant-là du banquet est utile à la compréhension du banquet.
Et vous avez eu votre mot à dire sur la représentation que Coco a fait de votre visage, Raphaël Antoven ?
Non, mais je n'y
vous
ai jamais...
Vous êtes reconnu ?
Plutôt, d'ailleurs, et puis peu importe, d'ailleurs, parce que je n'y ai jamais prétendu. Le livre que les gens tiennent entre les mains, enfin cette version-là du banquet, c'est d'abord le livre de Coco.
Mais nous, c'est le nôtre, mais quelle modeste.
Bah, la différence, non, parce que la différence entre toi et moi, c'est que j'aurais jamais pu faire ce que t'as fait.
Alors moi, j'aurais jamais pu faire de la philo comme ça.
Oui, mais tu parles du banquet maintenant comme quelqu'un qui peut en parler, alors que si tu me mets un crayon dans les mains, ça ne donnera rien du tout.
Et encore une petite parenthèse sur votre travail, Coco. Parti pris essentiellement du noir et blanc, oui. Avec quelques touches de couleur pour mettre en valeur un livre, un corps de femme ou le mythe d'Aristophane avec les hommes boules. Pourquoi ?
En fait, j'ai travaillé essentiellement à la plume, avec beaucoup de hachures. Et en fait, la hachure, c'est de la matière dans le dessin. C'est quelque chose que je trouve assez beau, assez fin. Utilise de la hachure ou la plume des grands dessinateurs comme Cabu, comme Crumb. C'est des gens dont moi, j'apprécie particulièrement le travail. J'avais envie de mettre en avant le noir et blanc, surtout pour montrer cette matière, et puis les touches de couleur sont là un peu pour animer ou pour mettre l'accent sur certains éléments ou alors certains passages comme le discours d'Aristophane qui est quasiment entièrement en couleur. Parti pris du noir et blanc parce que c'est beau, les contrastes, c'est beau, c'est je trouve que ça relativement intemporel. J'avais pas envie de travailler avec du Photoshop comme ça peut se faire beaucoup maintenant. J'ai l'impression parfois, en termes de couleurs, on voit un peu les mêmes choses dans l'édition, dans la BD. J'avais envie de me démarquer, de faire quelque chose qui me ressemblait un peu.
Transposition en image et adaptation du texte, parce que vous l'avez dit, Raphaël Antoven.
À peine. Hein.
À peine. Effectivement, c'est le texte oui. Original, mais vous avez néanmoins rajouté des phrases
oui, bien sûr.
Et du vocabulaire très contemporain. Des onomatopées mouef, bien roulé, mais bof.
Non, c'est moi surtout.
Ah bon, d'accord.
Oui.
Alors
oui, parfois il y a des petits moments un peu de ponctuation où moi-même, par exemple, quand Diotime s'emballe un peu dans son discours, bon bah je fais Socrate jeune qui dit mais arrête là tu baragouines, enfin on comprend plus rien ce que tu dis.
Et moi qui porte à ce moment-là un tube de Doliprano.
Voilà, c'est ça. Je me permets quelques petits gags ou alors quelques petites interventions peut-être voilà.
Ça veut dire quoi cette démarche? C'est pour être plus en phase avec un lectorat d'aujourd'hui?
Non, pas du tout. Il y avait pas d'idée.
Derrière.
Non, c'est que juste ça. Je crois que ça nous correspond. C'était notre forme d'humour et de ce point de vue d'ailleurs on était tout à fait en phase. Moi, quand Socrate prend la parole après le discours d'Agathon et qu'en deux secondes, il montre que le discours d'Agathon est absurde, même s'il est bien troussé, en vérité, il est absurde, je fais dire à ce moment-là à Phèdre ou à Eric Zimac, moi, j'ai bien aimé ton discours, et Agathon lui répond, ta gueule. Mais ce sont les dialogues ou les didascalies possibles dans la scène elle-même. C'est-à-dire, ça aurait pu se passer comme ça, ils auraient pu se dire ça. On les a ajoutés parce que ça nous venait naturellement.
C'est vraiment des tout petits détails.
Et puis c'est des gags.
Mais
hein.
La question peut se poser.
Ce sont des gags. On va pas plus loin que le gag, si vous voulez, ou que le clin d'œil.
Puisqu'il est question de l'amour sous toutes ses formes, évidemment, il est aussi question de l'amour entre hommes. On l'a déjà évoqué depuis le début de cette émission. Sachant donc, Coco, que vous dessinez des hommes dans une position qui ne laisse évidemment aucun doute sur la nature de cette relation, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, est-ce que ça peut choquer ou pas le lectorat ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai envie de représenter l'amour tel qu'elle est, entre les êtres, que ce soit entre homme-homme, femme-femme ou homme-femme.
Mais sachant que la liberté d'expression se paye très cher aujourd'hui, et vous en savez quelque chose, Coco, puisque vous faites partie de la rédaction de Charlie Hebdo qui a été massacrée. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous ou pas, sur des doutes de représenter ce que vous avez envie de représenter ?
Là, on sort de la BD, c'est ça que vous me posez comme
non,
question ?
Non, on sort pas forcément de la BD, on parle aussi de la liberté d'expression.
Non, bah écoutez, en fait, quand il y a eu l'attentat, Certains ont décidé d'arrêter le journal, certains ont décidé d'aller ailleurs. Moi, je suis restée. Et si je suis restée, c'est parce que j'avais des choses à dire et que j'avais envie de continuer à les dire dans le cadre du journal et comme ça l'avait toujours été. Voilà, les choses ont changé dans le sens où, ben, évidemment, il y a des grosses absences autour de la table, il y a des manques autour de la table. Mais le travail reste le travail. J'ai pu faire mes armes en tant que toute jeune dessinatrice avec Cabu, faire mes armes. C'est assez marrant parce que c'est tellement pacifique le dessin. Mais c'est quand même assez fort de pouvoir dire je fais mes armes en dessin. Donc je les ai fait avec Cabu, Charb, Tinius, toute l'équipe. Je me sentais redevable et puis j'avais envie de m'inscrire dans cette continuité-là. Et de pas céder un pouce de ce que j'avais avant. Donc, on essaye de faire ce travail encore, même toute l'équipe. Je pense qu'on est dans cette optique-là. Après, les choses ont changé, évidemment. Il y a des choses qui ont changé, notamment les réseaux sociaux, par exemple. C'est vrai que ça a donné une ampleur considérable à nos dessins. On ne s'adresse plus seulement à un lectorat qui achète un journal et qui décide de par cet achat de... Ça reste pas dans les pages maintenant. Moi, je veux pas penser à celui qui regardera mon dessin. J'ai envie de faire passer mes idées. La liberté d'expression, elle est immense. On reste évidemment dans le cadre de la loi. C'est ça nos bords. Notre bord, c'est la loi. Et si on commence à penser à celui qui recevra le dessin dans telle ou telle partie du monde, on dessinera plus rien. Jamais il y aura quelqu'un qui sera content. Le monde ne validera peut-être jamais tous nos dessins.
Encore un mot aussi pour signaler, Raphaël Antoven, la publication d'un recueil de textes paru sous le titre « Imaginé » d'après un programme diffusé sur Arte où il est question en une minute,
ça,
je
crois.
Ça, c'est
à l'école des loisirs. Hein.
J'allais venir. Où il est donc question en une minute d'aborder des sujets, des concepts forts, la mort, la sagesse, la vérité... Les porcs épiques.
Oui.
Et donc, c'est un recueil de ces textes magnifiquement illustrés par Chen Jianghong.
C'est son nom.
Voilà. En quelques mots, est-ce que vous voulez bien nous dire quel est le principe?
L'idée était de produire à la télévision, il y a quelques années de cela, 100 secondes de philosophie, au sein desquelles on avait le temps de raconter une histoire et d'en tirer une conclusion. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec Chen Jianghong, c'est que je lui envoie ces histoires et le dessin qui surgit de ces histoires n'est jamais la reproduction ou la transposition de l'histoire. Et ça n'est même pas une interprétation de l'histoire, c'est un décalage de l'histoire. Et donc systématiquement, c'est pour ça que j'adore travailler avec Chen, quand ses dessins s'ajoutent au texte, c'est un livre de plus dans le livre qui apparaît. Et donc on est au-delà ici de l'illustration. Parfois j'ai un doute, je me demande si c'est pas le texte qui vient illustrer le dessin.
Voilà ce recueil intitulé « Imaginez EZ ».
Ouais.
Qui est apparu aux éditions L'École des loisirs. Et évidemment, donc, je rappelle que Le Banquet, d'après l'œuvre de Platon, est cette nouvelle bande dessinée signée de Coco et de Raphaël Antoven, dont nous avons parlé tout au long de cet entretien. Et c'est un livre qui est apparu aux éditions Les Échappées. Merci.
Merci.
Merci
à vous.
Okay.
T'as vu comme on est synchro.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Les éditions Jean-Claude